La lecture déjà de 2 Samuel 6, versets 12 à 23, pour se replonger dans le texte. On arrive sur une période super, je trouve, dans la vie de David, parce qu'il a eu beaucoup de victoires sur ses ennemis extérieurs. Il a réussi à faire revenir l'arche. Et j'allais dire vulgairement, il se tient plus quoi. Il est fou de joie. Et je crois, moi je dirais que c'est presque le plus haut point de la vie de David. Mais on verra en continuant l'histoire de David, on verra. Mais je pense, en tout cas, si c'est pas le plus haut point de sa vie, je pense que c'est un des plus hauts points. Hein, et donc c'est aussi là que l'ennemi de nous tous, qui était fortement l'ennemi de David aussi, va changer de stratégie et va utiliser d'autres moyens pour le détruire. Après avoir essayé de le détruire par les Philistins, par la jalousie de Saül, par toutes sortes d'attaques extérieures, il va trouver quelque chose, et malheureusement on va le voir par la suite, qui marche beaucoup mieux. Et on sait tous comment ça se passe. Alors, on va lire rapidement ce texte. Donc, on reprend juste pour se resituer. L'Arche de l'Alliance, ou coffre du Seigneur, arrive à Jérusalem. Et on dit au roi David, le Seigneur pose du coffre de Dieu. Alors, David se mit en route et dans la joie, et ce petit mot est important, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David. Et c'est important parce que souvent, tous les événements religieux, on a l'impression qu'il faut que ce soit dans l'austérité, hein, avec un visage long. Et voilà, déjà dans l'Ancien Testament, on est dans la joie quand on s'approche de Dieu. Ça, c'est important. Quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, ils sacrifiaient un taureau et une bête grasse. C'était des sacrifices de reconnaissance, là. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin, comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations au son de la trompe. Et si vous regardez le texte de Chronique, et vous avez encore plus de détails, ça c'est pour le groupe de louanges, hein, sur tous les instruments qui étaient disponibles. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Jérusalem donc, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter, danser devant le Seigneur. Et elle se réjouit. Non, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on lui a amené le coffre du Seigneur, on le plaça en son lieu à l'intérieur de la tente, important, puisqu'il va reproduire la même chose que Moïse avait fait, hein, une tente, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. Et David offrit devant le Seigneur des holocaustes, c'est un mot compliqué pour dire des sacrifices où on brûlait totalement la bête, et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, c'est bien qu'elles soient citées, hein, à chacun un gâteau de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. Comme toujours en Israël, quand il y a une fête, il y a des repas, parce que le repas est un signe d'alliance. Rappelez-vous que les Juifs ne mangeaient pas avec un païen. Le repas est un signe d'alliance, donc évidemment, ils ne pouvaient pas faire alliance avec des païens. Donc ça a un sens, ils ne racontent pas juste cet épisode pour faire joli. Il y a une alliance entre Dieu et son peuple, et entre les personnes du peuple qui composaient le peuple. David revint pour bénir sa maison. Après avoir béni le peuple, il veut retourner chez lui pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des servantes de ses gens comme s'exposerait un homme de rien. Quel commentaire. David répondit à Michal. J'admire sa réponse. C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi. Lui qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur. J'aime bien le fait qu'il dit, c'est pas mon peuple, sur le peuple du Seigneur, Israël. Et c'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. et c'est auprès des servantes dont tu parles que je veux avoir ma gloire. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ah. Alors, tout d'abord, Obed-Edom, je l'avais rappelé, avait hébergé le coffre de l'Alliance pendant 3 mois, et Dieu avait béni cet homme, y compris dans ses biens. Donc la bénédiction de Dieu était sur cette famille, et David évidemment a compris que, quelque chose d'important, Dieu n'était pas fâché. Comme la dernière fois, il y avait eu un mort en amenant l'arche, il avait peur, et là il a compris, mais non, Dieu n'était pas fâché avec son peuple. Et ça c'est important. Dieu était prêt à bénir son peuple, puisque l'arche n'avait pas produit de catastrophe chez Obed-Edom. Il a compris autre chose, c'est que l'arche pouvait être une cause de bénédiction ou de malédiction. Et ça, on l'a compris la dernière fois, on en a parlé. Tout dépendait du cœur de la personne qui s'en approchait. Ah, ça c'était important que David comprenne ça, et de son obéissance. Si on fait n'importe quoi, c'est pas que Dieu va nous poser des problèmes exprès, etc., mais il y a des lois, hein. Il y a la loi du semi-récolté, voilà, moi je dis toujours, si vous sortez sous la pluie sans parapluie, vous serez mouillé. C'est pas parce que Dieu est colère après vous, c'est simplement, vous n'avez pas pris de précaution pour pas être mouillé. Et voilà, et il y a cette loi très forte, hein, dans la Bible, et il y avait des façons de traiter l'arche, on l'a vu la dernière fois, qui devaient être respectées. Quand elles ne sont pas respectées, ça posait des problèmes. Et il a compris parce que cette fois-ci, il a ramené l'arche comme il fallait, et tout s'est bien passé. Mais surtout, ce qui est un sujet de joie pour lui, c'est qu'il va comprendre que Dieu ne le rejette pas et ne rejette pas son peuple. Alors c'est un sujet de joie parce qu'à l'époque, il faut se mettre à leur place. Il n'y avait pas la Bible comme il y a maintenant. Il y avait quelques textes qui étaient gardés, d'ailleurs une partie dans le coffre et puis une autre partie pour les prêtres. Mais c'était la tradition orale, on se transmettait les histoires. Et ce qui devait préoccuper David, c'est est-ce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, donc on est un peu plus de 1000 ans plus long en arrière, est-ce qu'il est toujours le même? Est-ce que son alliance a été rompue? Puisqu'on a eu des problèmes avec ce coffre de l'alliance. Et puis, qu'est-ce que deviendrait ce petit peuple d'Israël sans Dieu? Vous imaginez, regardez aujourd'hui. Un petit peuple comme ça, qui est un miracle, tout court. Comment est-ce qu'il pourrait survivre sans Dieu? Et on peut comprendre la joie de David. L'alliance n'est pas rompue. Il est toujours notre Dieu. C'est important parce que vous savez qu'à l'époque, on pensait que leur Dieu, chaque peuple, chaque tribu même avait son Dieu, et on pensait qu'il était limité à la zone géographique où on était. Donc voilà, on avait des dieux qui étaient très limités dans la Mésopotamie de l'époque. Alors il pouvait faire ça, mais pas ça. Il était spécialisé pour avoir des enfants, il était spécialisé pour protéger les récoltes, tel autre était... Enfin, c'était très compliqué. Et il y avait une peur qui était tout le temps là. Est-ce que ce Dieu-là va me répondre? Est-ce que je l'ai fâché? Il y a eu de l'orage, mes récoltes ont été abîmées, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être faut que je fasse un sacrifice humain, ça aide. Bon, c'était ça à l'époque. Et donc, il y avait cette crainte dans le cœur de David. Est-ce que Dieu a rompu son alliance. Voilà, il faut comprendre la joie. Il l'a pas rompu. Il est toujours le même. Ah, ça fait du bien. Hein. Alors, David a tout fait comme il faut, on l'a dit. Et là, on arrive au passage préféré des groupes de louanges. Voilà. Passage préféré des groupes de louanges. Il y a les gens qui louent Dieu. Il y a les chants, la musique. Alors, pour ce qui est des paroles des chants, on peut se reporter au psaume. Il y en a plusieurs qui se rapportent à cette fête. Et puis David, il est tellement heureux qu'il danse de toute sa force devant le Seigneur. Et la Bible signale comment il était habillé. C'est rare, hein? Mais il y avait une raison. Parce qu'en fait, il avait un éphod de lin, c'est-à-dire une sorte de... Il y a deux choses. Avec le texte des Chroniques, on sait qu'il avait une sorte de manteau en lin blanc, assez précieux, et qu'il l'a enlevé. Et qu'en fait, il s'est retrouvé avec une sorte de pagne. Ça faisait drôle quand même pour un roi. Il porte un éphod de lin comme un pagne, comme faisaient les lévites, les prêtres. Et évidemment, ça fait drôle. David est quand même roi. Et il y a les acclamations, tous les instruments de musique. Alors si vous regardez le texte dans les Chroniques, il y en a un beau paragraphe sur tous les instruments de musique de l'époque, très intéressant, confirmé par l'archéologie, bien sûr. Il est habillé comme un prêtre. Ça voulait dire clairement consacré au service de l'Éternel. Alors, vous savez, les vêtements, c'est un peu comme les uniformes aujourd'hui, ça a un sens. Hein. Un pompier, un gendarme, un policier ne vont pas forcément être habillés pareil, un soldat. Et les fautes de l'un, ça en disait long. Ça disait, cet homme qui porte ça est consacré à Dieu. C'est-à-dire, pour lui, Dieu, c'est la priorité, il veut adorer Dieu. Voilà ce que ça voulait dire. Et il est prêt à s'humilier pour adorer Dieu. Alors, pour lui, c'était clair, il fait partie, dans son cœur, David, il s'est habillé comme ça, parce qu'il sentait qu'il faisait partie de ces hommes consacrés au service de Dieu. Il n'y a pas eu beaucoup de rois d'Israël comme ça, hein, malheureusement. Mais pour lui, c'était clair, je suis consacré au service de Dieu. Roi ou pas roi, je suis consacré au service de Dieu. Il l'a pensé quand il était petit berger, il l'a pensé quand il a eu la victoire sur Goliath, il l'a pensé quand il a été poursuivi par Saül, il l'a pensé dans toutes ses victoires, que ce soit avec les Amalécites ou avec les Philistins. Je suis consacré au service de Dieu. Et je crois que ça doit nous parler à nous aussi. Alors, on n'a plus d'uniforme, heureusement, mais c'est important que dans nos cœurs, on soit conscient comme David. Voilà, je suis consacré au service de Dieu. Je ne suis pas un civil, quelque part. Alors, c'est un grand jour de réjouissance. Et David a décidé de ne pas se distinguer en qualité de roi. Très curieux, hein, comme comportement, surtout à l'époque. Alors maintenant, c'est un petit peu mieux vu. Hein. Je me souviens, le roi Baudouin de Belgique, qui était croyant, fervent. Qui se mélangeait aux autres, etc. Mais à l'époque, c'était quand même. Hein. De la même manière qu'il avait marché avec ses soldats à la tête de l'armée, pendant les combats contre les Philistins, etc., lui, il dansait, il chantait avec son peuple. Et David va laisser de côté, comme j'ai dit, son manteau royal pour prendre le vêtement d'un serviteur de Dieu. Alors évidemment, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. Et on peut se reporter à Philippiens 2, versets 6 à 11, je sais qu'on le connaît presque par cœur dans notre Église, mais quand même, je crois qu'il est important de le relire. Et vous allez bien sûr deviner de qui il s'agit. Ayez entre vous, donc c'est Philippiens 2, on va commencer au verset 5. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Ah tiens, oui, David, Jésus, fils de David, hein, on dit souvent ça dans la Bible. Voyez le même état d'esprit que celui de Jésus. En se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect, comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors on le relit souvent dans l'Église, mais quand j'ai lu ce texte et que je l'ai travaillé, j'ai pensé à ce texte. C'est exactement, on va dire, même si on fait un anachronisme, on va dire que David s'est comporté comme plus tard Jésus va se comporter. Et c'est important. Et j'ai pensé aussi à un autre événement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va bientôt fêter Pâques. Ça aurait pu faire un message pour Pâques. Manque de chance, je suis un peu en avance. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Ça ne vous dit rien? Pas de char royal. Un petit âne. Petit ânon. Moi, j'aime bien les ânes. Ça me va très bien. Pas de soldats à son service, de simples disciples, pêcheurs de poissons, bof, bof. Pas de parade, pas de vêtements royaux. Pour marquer, Jésus n'avait pas ni de couronne, ni de sceptre. Pas même de sacrifice. Là, avec l'arche, il y avait sacrifice. Mais le sacrifice, il était là, en chair et en os. Jésus était lui-même le sacrifice. Donc, il n'y avait pas besoin de sacrifice. Pas d'arche, de toute façon elle était perdue à cette époque-là, on ne sait pas où elle est, on ne le sait pas plus aujourd'hui. Parce qu'il est celui qui nous réconcilie, c'est lui qui fait l'alliance avec Dieu. Donc il n'y avait pas besoin de l'arche, c'est lui l'arche. Et pas de symbole de la présence de Dieu, autre que Jésus lui-même, c'est génial. Et vous vous souvenez que l'arche, il y avait du bois recouvert d'or. Le symbole à l'époque était évident, nous on a perdu tous ces symboles. C'était l'or, c'est pour Dieu, et le bois... c'était pour l'être humain. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, l'arche était en bois recouvert d'or, les deux. Donc c'était ça, l'entrée de l'arche à Jérusalem, et c'était au même lieu à peu près. L'entrée de l'arche à Jérusalem correspond parfaitement à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans la Bible. Il y a des parallèles qui font réfléchir. C'est incroyable. Quand vous pensez un livre, de, enfin 66 livres, et je ne sais plus combien d'auteurs, si c'est une cinquantaine, d'auteurs différents, d'époques différentes, avec des métiers différents, qui écrivent des choses qui marchent ensemble. C'est fou, c'est impossible. J'ai lu les romans d'Ekman Chatrian, deux hommes qui ont fait d'ailleurs de superbes histoires. Mais ça ne devait pas être facile déjà d'écrire dans la même époque, à deux, le même livre. Mais vous imaginez, sur plus de 2000 ans, des auteurs complètement différents qui se correspondent dans une parfaite cohérence. Ça, c'est un miracle. Je le disais toujours à mes élèves, c'est un miracle absolu. Alors, je me suis posé la question, est-ce que David, dans sa joie et dans sa communion avec Dieu, avait pressenti qu'un jour, un de ses descendants serait le parfait sacrifice et qu'il rentrerait à Jérusalem? Peut-être oui, peut-être non. Il avait des accents prophétiques dans ses psaumes, donc on peut se poser la question. Et puis, il y a un autre parallèle que je ferai avec Jésus. C'est Jean 13, verset 3. On voit Jésus se défaire de ses vêtements et prendre un linge qu'il s'attache autour de lui, donc un peu comme le pagne de David, et comme un tablier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver les pieds de ses disciples. Faire le travail d'un esclave. Non, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme si Macron allait travailler en cuisine en allant au restaurant. Ça, les gens diraient quand même. Hein, mais son grand tablier, il va aller servir les gens. Et voilà. Et Pierre, évidemment, refuse. Ah non, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Et Jésus, qui remplit le rôle de l'esclave devant lui, ça passe pas. Mais Pierre, au moins, il se moque pas. Par contre, il s'oppose. Non, ça se fait pas. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent ici. Pierre, je peux pas accepter ça. Ce n'est pas dans notre culture en Israël. Et à ce propos, on va lire Matthieu 20. Parce que je trouve que là, c'est vrai que David... C'est pas que je veux donner raison à notre cher Mical, mais quand même, il a poussé un petit peu David. Hein. Côté culture, c'est à revoir. Ce n'est pas dans notre culture en Israël, eh ben non. Et Jésus va dire quelque chose de très important dans Matthieu 20, versets 25 à 28. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous, au contraire. Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Ah, donner sa vie. C'est aussi ce qui est demandé à nos maris, entre parenthèses. C'est écrire. Donner sa vie. Oui, combien de choses dans la Bible et dans l'enseignement de Jésus en particulier sont complètement contraires à notre culture, à celle de notre pays d'origine. Et là, on est nombreux de pays d'origine différents. C'est chouette. Et aussi à celle de la France, pourtant imprégnée de christianisme depuis bientôt 2000 ans. Hein. Mais il n'empêche qu'il y a plein de choses dans l'Évangile qui sont complètement contraires à notre culture. Et la question qu'on peut se poser... Est-ce qu'on va suivre notre culture ou est-ce qu'on va suivre celle du royaume de Dieu? Et ce n'est pas facile. C'est des choix douloureux. Je sais que pour certaines personnes, c'est des choix extrêmement douloureux, surtout quand il s'agit des fêtes de famille, des rites anciens. Ouh, c'est chaud, hein? Et qu'est-ce qu'on va choisir? À qui est-ce qu'on va obéir? À la parole de Dieu ou à notre culture? Et il ne faut pas rêver, les Occidentaux ont une culture aussi compliquée et aussi difficile que d'autres pays. Il ne faut pas croire que parce qu'on est Occidentaux, parce que le christianisme a imprégné notre culture en Europe, en gros, c'est un peu en Amérique, a imprégné notre culture, oui, oui, bien sûr. Mais il n'empêche, on a notre compte de choses qui vont et qui s'opposent à l'Évangile. Donc, vais-je faire comme David ou est-ce que je vais faire comme Mical? C'est un peu le problème qu'on peut se poser. Alors, on peut se poser une autre question. Est-ce qu'il perd son identité de roi? Parce que ça, quand même, c'est important. C'est Dieu qui l'a établi roi. Est-ce qu'en se comportant comme ça, vous l'imaginez? Alors, j'avais une super image dans un livre pour enfants où on voit ce petit personnage qui gesticule. Il y a deux grandes pages comme ça. J'ai complètement oublié de la porter. Et on voit ce petit personnage à moitié nu, enfin juste avec son pagne, qui gesticule. C'est très drôle. Ça donne bien l'image de « Oh, choquant, choquant ». Est-ce qu'il perd son identité de roi? Eh bien oui, si c'est l'apparence qui fait le roi. Alors là, oui. S'il n'a pas de couronne, il n'a pas de sceptre, il n'a pas de manteau, il n'a pas de bague, il n'a pas de bijoux, enfin, il est juste un pagne. Il est juste décent, quoi. Oui, dans ce cas-là, oui, si c'est ça qui est important. Effectivement, il perd son identité de roi. Par contre, si ce qui est important, c'est le choix de Dieu, alors il ne le perd pas. C'est Dieu qui l'a fait roi d'Israël, et il le dit d'ailleurs, lui qui m'a choisi. Eh bien non, il rajoute simplement quelque chose à son identité. Il rajoute roi d'Israël et serviteur du Dieu vivant, consacré à Dieu. Facile à dire, beaucoup plus difficile à vivre. Je ne sais pas comment le peuple l'a vécu, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a mal vécu. Et c'est pourquoi au verset 14, 16, 21 et 22, on l'a lu, puis j'ai insisté dessus, vous l'avez remarqué, c'est devant le Seigneur qu'il chante et qu'il danse. Je pense même qu'il n'aurait peut-être pas agi de la même manière à un mariage, par exemple. Parce que là, c'était devant le Seigneur. Il s'est comporté comme ça, devant le Seigneur. Alors, vous allez me dire, on n'imagine pas la chose aujourd'hui. On va prendre un exemple de quelqu'un de très digne, comme était Billy Graham. Vous l'imaginez, en maillot de bain, gesticulé devant... Ok, mais quand même, il faut réfléchir à la culture d'Israël. Danser, chanter, même dans la rue, si vous avez vu le Rabbi Jacob, ça fait partie de la culture, Rabbi Jacob. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Vous allez voir que ça fait partie de la culture juive encore 2000 ans, 3000 ans après, par rapport à David. Danser, chanter dans la rue, exprimer sa joie, amen, mais c'est super. Moi, la religion n'est pas triste. Ça fait partie de la culture. Donc, il n'était pas si décalé que ça. Je pense que ça nous choque à la limite plus nous. Et qu'il y avait autre chose qui choquait Mical, on va voir. Mais chanter, danser comme ça dans la rue, non, ce n'était pas un problème à l'époque. Par contre, peut-être que David ne l'aurait pas fait à un mariage. Mais il l'a fait devant le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Bon, enfin, l'arche est installée dans la tente que David avait fait préparer, comme au temps de Moïse. Et là, il offre encore des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Puis, comme dans la plupart des fêtes d'Israël, j'ai signalé, on mange et on partage de la nourriture. Chaque fois qu'il y avait des fêtes, on s'envoyait des cadeaux. Les cadeaux à l'époque, ce n'était pas de l'électroménager, c'était de la nourriture, du pain, de la viande, des gâteaux, gâteaux de dattes, etc. Et ce n'est que maintenant que sa femme Mical, fille du roi Saül, vient à sa rencontre. Alors, déjà, André avait grignoté sur mon message. Ça rappelle un autre événement où, en pareille circonstance, la sœur de Moïse, qui s'appelait Myriam, avait chanté la gloire de Dieu avec les femmes du peuple. Vous retrouvez ça dans Exode 15, 20-21. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Myriam répondait, « Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. » Ah ! Elle avait fait ça après la sortie d'Égypte, on comprend. Elle n'était pas restée dans son coin, et elle avait entraîné toutes les femmes avec elle. Et si la Bible cite, c'est parce que c'était très bien ce qu'elle a fait. Mais Mical, elle n'a pas assisté. Alors d'abord, qu'on rappelle rapidement qui elle est. Parce que peut-être que vous avez un peu perdu le fil. Moi, j'ai bien recherché à la cadrer. Alors, la pauvre Mical, franchement, je la plains. Même si à l'époque, elle était bien dans sa culture, peut-être elle acceptait ces choses. Mais bon, alors maintenant, ce serait terrible, ce serait dans tous les journaux. Saül, son père, avait appris qu'elle aimait David. Et comme il n'avait pas tenu sa promesse, quand il a tué Goliath, il avait dit « Je donnerai au gagnant de Goliath, au vainqueur, je lui donnerai ma fille en mariage ». Classique au Moyen-Âge aussi, hein. On n'avait pas beaucoup progressé en 2500 ans. On donnait sa fille en mariage au vainqueur du duel, etc. Bon, ok. Ça, apparemment, ça ne les gênait pas. Bon. Et puis, malheureusement, il est devenu de plus en plus jaloux, Saül, de David, parce qu'il avait victoire sur victoire. Les gens chantaient sa gloire dans les rues, et là, ça a commencé à lui peser. Et du coup, il a donné sa fille aînée à quelqu'un d'autre. Ben tiens, j'espère qu'elle était contente. Dans certaines familles, on demandait l'avis, hein, donc je ne sais pas, on ne sait pas s'il lui a demandé son avis. Par contre, il a entendu dire, dans les bruits de palais, que Michal s'intéressait fortement à David. Ah, la Bible dit qu'elle aimait David. Et Saül, dans sa jalousie et sa agressivité, s'est dit « Ah, c'est une bonne occasion, je vais lui proposer ma fille, s'il veut bien tuer, je passe les détails, 200 Philistins. » Il se dit « Là, il a toutes les chances de se faire tuer. » Et il dit clairement, hein, dans 1 Samuel 18, verset 21, « Pour qu'elle soit un piège pour lui. » C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Le mariage en échange de la mort de 200 Philistins, il n'a pas de chance, Saül. Il remporte la victoire et il est obligé de lui donner sa fille Michal. Alors là, il est colère et il décide de le faire tuer, d'envoyer des hommes tôt le matin, comme fait la police dans les opérations, là, vous savez, dans les films de détectives, vous voyez la police qui arrive au petit matin et qui saute sur le grand méchant. Et ben, c'était un peu ça. Ils se sont dit, on va le surprendre le matin et vous allez le tuer. Michal est au courant et elle va tout faire pour lui sauver la vie. Alors, oui, c'est super. Malheureusement, il y a un petit souci. Elle va lui proposer de descendre par la fenêtre. Donc, elle a dû trouver un système pour le descendre par la fenêtre. On imagine que la maison de Michal et David était le long de la muraille, un peu comme dans Jéricho. Hein. Et pendant que les hommes frappaient à la porte, bah, il a pu se sauver. Elle a eu un peu de mal à le persuader, mais elle avait une force de persuasion très claire. Sinon, tu vas mourir, il faut que tu partes. Et puis quand les hommes arrivent, eh bien, elle fait croire qu'il est malade et elle installe dans son lit une peau de chèvre. C'est pour ça qu'il y en a qui supposent qu'en fait David avait non pas les cheveux blonds mais les cheveux noirs parce que les chèvres là-bas étaient plutôt noires. Qui sait ? Et donc elle s'arrange pour mettre dans son lit, quoi donc ? Un théraphim, c'est-à-dire une idole païenne qu'elle avait soigneusement dans sa maison. C'est embêtant quand même, hein ? C'est embêtant. Et elle va mentir. Elle va mentir, elle va dire il est malade, il ne peut pas venir. Les hommes repartent, ils reviennent. Et Saül dit bah, emmenez-le même dans son lit, on le mettra à mort dans son lit. Oh, c'est charmant. Et alors, bien sûr, il découvre dans le lit que c'est une peau de chèvre et un théraphime. Et ils sont vraiment très. Saül est furieux. Et évidemment, elle risque sa vie, Michal. Et elle va rementir. Elle va dire, mais il m'a dit que si je ne le laissais pas partir, il me tuerait. Bon, ça, elle avait la vie sauve. Donc, vous voyez, elle est un petit peu ambivalente, notre Michal. On comprend ce qu'elle a fait. On dit, c'est beau qu'elle ait voulu lui sauver la vie, mais les moyens qu'elle a utilisés posent un petit peu question. On ne la voit jamais prier, on ne la voit jamais crier à Dieu, on ne la voit jamais... Bon, ok. La Bible, j'aime bien ça d'ailleurs, elle ne juge pas. Mais elle expose juste les faits. Quelque part, David doit sa vie à Michal. Il ne faut pas l'oublier. Saül, aussitôt que David s'est enfui, il va donner Michal en mariage à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle était d'accord ? On ne sait pas. Et c'est seulement quand David sera roi de Juda et que Abner, vous savez, le chef de l'armée d'Israël, va vouloir faire alliance avec lui, qu'il va dire « Moi, je veux récupérer ma femme, donc sa première femme. » Et Abner a dû lui ramener sa femme. Plus grand désespoir de ce pauvre monsieur qu'elle avait épousé. Et on peut se dire, moi je pense, j'avais envie de plaindre Michal, parce qu'en fait, elle est instrumentalisée. Vous imaginez les filles, votre père décide de vous marier avec quelqu'un, et puis il veut éliminer ce quelqu'un, puis après il vous marie avec quelqu'un d'autre, et puis le premier va vous récupérer. Je ne sais pas si vous trouveriez ça très drôle, hein, franchement. Donc, pauvre Michal, on a tous envie de dire ça. Et je crois que, oui, dans la Bible, on sent qu'elle n'est pas plainte ouvertement, mais bon. C'était aussi le deuxième choix. Le premier choix, pour David, c'était la fille aînée. Bon, ce n'est pas très agréable non plus. C'est un objet qu'on donne, qu'on reprend, voilà. Elle a été mariée, séparée, remariée. À part le mariage avec David, on ne sait pas s'il y a eu un accord. Pour celui-là, il y en avait un. Mais on constate aussi qu'elle sait très bien contrôler les situations dangereuses. Quand même, faut du cran, hein, pour te faire face à une troupe armée qui est envoyée par son père, etc. Parfois, je me dis qu'elle avait même un petit peu plus de cran, ou au moins autant que son frère Jonathan. Elle avait une puissance de contrôle qui est quand même très nette. Elle tient tête à son père, parce que c'est une trahison par rapport à son père. Elle tient tête à son père, et ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle possédait un téraphim. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on pense que ça ressemble aux idoles qu'avaient les Romains, vous savez, les pénates, les dieux du foyer, les dieux lard, hein, chez les Romains, les dieux du foyer, qui protégeaient la maison. Et on pense que les téraphimes, c'était ça. Donc, les avets, c'était une protection. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, un dieu qui était limité géographiquement au foyer, à la maison. Et malheureusement, il y en a d'autres hein, dans la Bible qui en ont eu. Et on va voir le prophète Samuel qui assimile carrément le culte à ces téraphimes comme de la sorcellerie. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 15, verset 23. Et puis, bon, bien sûr, il y a des rois aussi qui vont promulguer des lois pour détruire tous ces téraphimes. J'ai les références. Alors, son cœur est clairement partagé, en fait, et c'est ça qui m'ennuie chez Michal, entre le Dieu d'Israël et ses idoles païennes. Elle est blessée par la vie, c'est clair. Je pense qu'elle n'a pas dû apprécier tous ces événements, même si elle savait que ça faisait partie de la culture. Je pense quand même que ça a dû être dur. Mais quand David, blessé dans son cœur, trahi, humilié, menacé de mort, cherchait Dieu, on ne voit pas ça chez Michal. Si on compare avec d'autres femmes, Déborah, Ruth, Esther ou la petite servante de Naaman, on n'a pas l'impression que Dieu tient une grande place dans sa vie. Elle a sa sagesse, elle a ses forces, ses idoles et son savoir-faire, ses astuces et ses mensonges. Bon, mais ceci étant, c'est une personne qui a été vraiment maltraitée. Hein. Alors comment Michal va se comporter en ce jour de fête? On va revenir. Elle vient à la rencontre de son mari, c'est sympathique, elle l'accueille. Sympa, on pourrait dire. Mais contrairement à Myriam, elle va rester au palais. Elle est restée au palais et elle est restée à sa fenêtre. Et je me suis longuement attardée sur ce point-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime bien regarder par la fenêtre. On voit les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus loin. Et quelquefois, c'est bien sympa. On voit les choses sans y être mêlé. Et je ne veux pas vous poser de questions, on n'est pas à l'école, mais simplement pendant quelques secondes, dans votre cœur, essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça traduit chez elle, le fait d'être restée derrière sa fenêtre, à regarder ce qui se passait, sans descendre? Sachant qu'il y avait peut-être une tribune pour les personnalités. Hein. Les Romains le faisaient, les Égyptiens aussi, donc peut-être que... C'est probable qu'elle aurait pu avoir un lieu sympathique, elle n'était pas obligée de rester les pieds dans la poussière. Qu'est-ce que ça traduit chez elle? Je vous laisse juste quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reste derrière ma fenêtre, je regarde de loin et de haut. Alors moi j'ai mis tout un tas de choses, vous allez peut-être retrouver des choses que vous avez dans votre cœur, je les ai mis en vrac, de la distance, de la hauteur, de la curiosité, le désir d'être à part et de ne pas se mélanger. Elle ne se sent pas dedans. Elle marque sa supériorité. Elle ne se sent pas partie de la fête. Elle ne se sent pas en communion spirituelle, parce que c'était quand même le problème là, ni sociale avec les autres. Elle veut mettre une distance. Et ça lui permet aussi de voir les autres plus petits. Vous avez peut-être d'autres réponses, elles sont tout aussi valables. Mais j'ai pensé à toutes celles-là. Regarder le retour de l'Arche de l'Alliance de loin, eh bien, ce n'était pas forcément mal en soi. Et alors? On ne va pas lui reprocher ça. Elle voulait voir ce qui se passait. Ça aurait pu même être une première étape pour elle. Et là, j'ai repensé, tous les enfants connaissent son histoire, Zachée. Zachée voulait voir Jésus. Pourtant, c'était un gars sérieusement pourri, hein. Au lieu de prendre les impôts correctement, il les multipliait par 6 ou 7 pour mettre le reste dans sa poche. Une honte. En plus, c'était pour l'occupant romain. Pendant la dernière guerre, on appelait ça des collabos. Et puis à la fin de la guerre, on les a fusillés pour une grande partie. Pas tous, mais bon. Et il n'était pas aimé, mais il voulait voir Jésus. Il est monté dans un arbre pour voir sans être vu. Et je trouve un peu la même réaction que Michal. Je suis tranquille derrière ma fenêtre, je regarde ce qui se passe. Mais pour Zachée, ça a été une première étape. Jésus s'est arrêté au pied de l'arbre, lui a dit, et j'aime bien ce qu'il lui dit, hein. « Descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Bon, maintenant, on ne pourrait plus dire « il faut » parce que les gens ne le supporteraient pas. Peut-être Jésus changerait, je ne sais pas. Il dit « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée s'est exécuté. Parce qu'en fait, pour lui, voir Jésus, c'était plus que de la curiosité. Il y avait quelque chose qui bougeait dans son cœur. La preuve, c'est qu'après avoir parlé avec Jésus, il va rendre l'argent qu'il a volé. Et il va changer de style de vie. C'était une première étape. Il a rudement bien fait, Zachée. Et il y en a une autre qui m'intéresse aussi, c'est Nathanaël. Nathanaël était resté à l'écart quand Jésus était là. Et parce qu'il avait des idées préconçues, Nathanaël. Nathanaël avait décidé que ce qui venait de Nazareth, ça ne pouvait pas être bon. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Il avait oublié que Jésus était né à Bethléem, mais ce n'est pas grave. Il aurait pu se renseigner. Et Jésus, Philippe, va lui dire, viens et vois. Viens voir. Reste pas à l'écart. Viens voir ce Jésus. Moi, je crois qu'il est le Messie. Viens voir. Jésus va lui dire, ah, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Ah, personne ne l'avait vu, mais Jésus l'avait vu. Et je crois que c'est important de prendre conscience que ça peut être une première étape, de rester à l'écart. Mais il ne faut pas que ça reste comme ça. Comme ces deux personnes, on peut avoir envie de voir Jésus de loin. Et peut-être parfois, même nous chrétiens, il y a des moments dans notre vie où pour des raisons X, on a envie de voir Jésus de loin, de ne pas s'en mêler. C'est pas mal en soi. Mais il vient le moment où il faut s'approcher. Viens et vois. Descends de ton arbre, Zachée. Il faut que je vienne dîner avec toi. C'était aussi un signe d'alliance, hein, n'oubliez pas. Jésus dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Jésus, lui, il a déjà fait le premier pas en donnant sa vie à la croix. Ne restez pas à la fenêtre à regarder. Et je suis sûre, quand j'ai préparé ce message, je suis sûre qu'il s'adressait au moins à une personne. Ne restez pas à la fenêtre à regarder. Viens et vois. Approche-toi. Va plus loin. C'est bien. Jésus n'a jamais condamné Zachée d'être resté à l'égard. Il n'a absolument pas condamné Nathanaël de ne pas s'approcher. Mais c'est la première étape. La deuxième, c'est « j'y vais ». Ne restez pas à la fenêtre à regarder. C'est bien d'observer, c'est excellent d'écouter, de réfléchir, comme les Béréens qui consultaient la loi pour voir si ce que disait Jésus, ce que disait Paul était cohérent. Mais il y a un moment où il faut vraiment s'approcher. Il faut se mélanger, il faut rentrer dedans. Malheureusement, si Michal avait bien voulu descendre, se mélanger à la fête, même si c'était à la tribune d'honneur, s'il y en avait une... Elle aurait compris. Et vous savez pourquoi elle aurait compris ? Elle aurait compris à cause des paroles des chants. Vous avez vu les paroles de Myriam, on loue Dieu et sa souveraineté, etc. Elle aurait compris pourquoi il y avait tant de joie, pourquoi David était fou de joie, pourquoi on dansait, pourquoi on chantait. Parce que les chants l'exprimaient. Et là, on n'avait qu'à regarder les psaumes qui concernent ça. C'est pourquoi c'est important que le coffre du Seigneur, symbole de la présence de Dieu, soit revenu au milieu du peuple. Elle aurait pu comprendre ça. Elle aurait pu comprendre pourquoi on pouvait se réjouir au souvenir des victoires passées. Parce qu'à l'intérieur du coffre, il y avait la manne, le bâton d'Aaron, il y avait les tables des 10 commandements. Elle aurait pu comprendre pourquoi c'était un privilège d'adorer un Dieu vivant et pas ces fameux théraphimes, qui sont un bout de bois, d'ailleurs c'était pratique, hein, pour simuler un corps humain dans un lit. Elle aurait pu comprendre que c'était autre chose, le Dieu vivant. Elle aurait aussi pu comprendre la joie folle de David, que Dieu avait gardé son alliance envers le peuple. Elle aurait entendu les chants, elle se serait mêlée à la foule. Ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Et regarder de loin, ça aurait pu être une première étape. Et si en ce moment vous regardez Jésus de loin, parce que vous estimez que vous êtes trop jeune, ou trop ceci, ou pas assez cela, ok, c'est pas un jugement, Dieu vous juge pas. Mais il y a un moment où Jésus va venir sous votre arbre et vous dire « Allez, descends ». Je veux faire alliance avec toi. le repas d'alliance. Je veux faire alliance avec toi, je veux manger avec toi. Je veux être dans ta vie quotidienne. C'est pas mal de rester à l'écart, mais c'est pas suffisant. Descends de ton arbre. Viens et vois, comme Nathanaël. Mais Michal, si elle l'avait fait, ça l'aurait aidé à comprendre. Mais Michal reste loin, elle regarde les choses de loin et de haut. Alors là, au bout d'un moment, ça devient gênant. Parce que quand on reste trop longtemps à l'écart, trop longtemps à regarder les choses de haut, trop longtemps à regarder les choses de loin, eh bien, ça devient gênant. Parce qu'on ne cherche plus à comprendre. On prend de la distance de plus en plus. Et puis, il y a un moment où on n'a plus envie. Et puis, il y a un moment où on trouve tout ridicule. Ce petit David en pagne, là. Vous ne croyez pas qu'il a l'air ridicule sans son manteau royal ? Il gesticule, il saute, il danse, il chante comme le commun du peuple alors qu'il est roi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand on reste trop longtemps en haut et loin, on méprise. On méprise. C'est le chemin, malheureusement. C'est pour ça que je vous invite, si vous sentez dans votre cœur que vous regardez de loin et de haut et que personne ne s'en doute, mais vous, vous le savez, descendez de votre arbre. Allez dîner avec Jésus. Je pense que dans son cœur, elle se disait, ah, si seulement il avait pris son plus beau cheval blanc harnaché avec de la pourpre et de l'or, si seulement il avait revêtu son manteau royal, sa couronne, son sceptre, si seulement il était entouré des gardes royaux, en uniforme de cérémonie, bien sûr, si seulement il avançait la tête haute, sobre, digne, alors ce serait un vrai roi comme il faut. Voyez, là, elle ne pouvait plus rien comprendre. Le mépris s'est installé dans son cœur. Elle ne retrouvait plus l'image glorieuse qu'elle avait de ce guerrier qu'elle aimait, guerrier victorieux de Goliath. Ah, là, elle était impressionnée, hein, ils avaient tellement eu peur avec Goliath. Ce visage aussi du chef d'armée de Juda, ou du roi, parce que ces derniers temps, il avait un palais, il était respecté, il était roi de l'ensemble d'Israël. Ça lui faisait penser à son père, peut-être. Son père était allé loin, il s'était même fait faire une statue. Donc côté dignité, on peut y aller. Hein. Alors le problème, c'est que quand on ne veut pas comprendre et que les choses ne correspondent pas à l'image qu'on en a, la réaction humaine normale, c'est le mépris. Et je répète ça parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ce texte et qui m'a beaucoup parlé. Quand on ne veut pas comprendre, on ne fait pas la démarche et que les choses ne correspondent pas du tout à l'image qu'on en a, la réaction humaine normale est de mépriser. Et ça fait mal pour cette pauvre Michal. Vous imaginez la vie différente qu'elle aurait pu avoir si elle était rentrée dans la communion du Seigneur. Et ça commence dans le cœur. Hein, la Bible dit qu'elle a commencé à le mépriser dans son cœur, déjà avant qu'il rentre. Hein. La Bible dit, Marc 7, 21, c'est du dedans, du cœur des gens. Que sortent les raisonnements mauvais. J'aime bien cette traduction de la NBS. Les raisonnements mauvais, l'inconduite sexuelle, les vols, les meurtres, l'adultère, l'avidité, la méchanceté, la ruse, la débauche, le regard mauvais. Ils vont jusque-là. La calomnie, l'orgueil et la déraison. Traduction intéressante. À sa fenêtre, elle ne dit peut-être rien, mais le cancer du mépris commence à se développer silencieusement dans son cœur, dans son être intérieur, dans son âme et ses sentiments. Et quand elle va à la rencontre de David, eh ben imaginez qu'elle n'attend même pas sa bénédiction. Il est là pour bénir. Il est là avec des bonnes intentions. Elle n'attend même pas sa bénédiction sur la famille. C'est ce qu'il avait prévu, lui, pourtant. Elle veut vider son sac. Elle veut déverser son mépris. Ce mépris qui la ronge depuis des heures. Elle est peut-être restée longtemps derrière sa fenêtre. La Bible ne le dit pas. Vous savez, ces fêtes-là, ça ne durait pas 5 minutes, hein. Elle explose, elle ne pose pas de questions, elle n'essaie pas de connaître le point de vue de David, même pas. Je veux dire, au moins, comment tu as vécu ça ? T'as pas trouvé que tu es un petit peu débordé ? Non, non, paf ! Elle a raison, de toute façon. Elle est fille de roi, elle le fait sentir. Lui, tu es un petit berger. Bon, elle oublie que son grand-père était aussi cultivateur, mais bon. Et son père aussi, au départ. Le crime de David, c'est qu'il ne correspond pas à l'image qu'elle a de la royauté. L'image liée au monde de l'époque. Je pense qu'à la limite, aujourd'hui, on dirait « Waouh, voilà, quelqu'un de sympathique. » Ouais, mais à l'époque, ça ne passait pas. On n'est plus au temps d'Abraham. C'est ce qu'elle pouvait penser. Ok, au temps d'Abraham ou de Moïse, hein, on était des nomades, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, plus dans le désert, hein, on avait gardé les mêmes vêtements pendant 40 ans. Il faut vivre avec son temps, on n'est plus au temps de Moïse et d'Abraham. Maintenant, on a des rois avec des beaux vêtements, avec, etc., etc. En plus, il lui est redevable. Elle lui a sauvé la vie. Heureusement qu'il lui a obéi et qu'il s'est enfui. Mais avec cette conversation qu'ils vont avoir, je ne pense pas qu'on va pouvoir la voir aujourd'hui, on voit que c'est un abîme qui les sépare. Ce sont deux façons différentes de voir le Dieu d'Israël et le roi qu'il a choisi. Mais fondamentalement, ce n'est pas seulement le roi qui lui pose problème. Je crois que c'est le Dieu d'Israël. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je veux pas vous... On essaie de garder le culte pas trop long, donc on terminera la prochaine fois. Mais réfléchissons, parce que je pense que vraiment j'avais fortement ce message sur mon cœur. Si dans votre cœur vous avez l'impression que vous êtes à votre fenêtre et que vous n'arrivez pas à descendre, c'est vrai que c'est agréable de regarder les choses de loin et de plus haut, mais c'est qu'une première étape. Et prenez la décision d'aller manger avec Jésus comme Zachée. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, dit la Bible. Elle dit aussi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je dînerai avec lui. Vous voyez, il y a toujours la même image d'une communion avec Jésus. Seigneur, je te prie vraiment que chacun ici, chacun de nous, peut-être il y a une période de notre vie où on a envie de remonter aussi à notre fenêtre. Seigneur, veuille nous aider à descendre de notre arbre, à venir auprès de toi et surtout à ne pas faire comme Michal, qui a fini rejeté, stérile. Seigneur, nous voulons descendre de notre arbre et vraiment manger avec toi, que tu fasses partie de notre quotidien, que nous ayons cette communion avec toi au quotidien. Merci de ne pas regarder à toutes nos fautes, à tout ce qui ne va pas chez nous, mais merci de nous accepter tels que nous sommes et de nous aider à changer. Seigneur, nous nous en remettons entre tes mains ce matin. Amen.